Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, une émission spéciale aujourd'hui, puisque nous nous trouvons à la Villette, à Paris, où a été lancée tout à l'heure la première édition du Forum sur la paix. La paix, justement, est-elle menacée par la montée du populisme à travers le monde? Des États-Unis de Donald Trump aux Philippines de Rodrigo Duterte, en passant par la Hongrie de Viktor Orban, l'Italie de Matteo Salvini ou la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, sans oublier, dernier exemple en date, le Brésil, qui a élu le 28 octobre un président d'extrême droite, raciste et homophobe, Jair Bolsonaro. Alors comment expliquer cette contagion populiste nationaliste? Comment l'enrayer? Du renforcement du multilatéralisme à l'action collective, aux initiatives citoyennes, quels sont les recours, les solutions possibles? On en débat avec nos trois invités. Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes historien des relations internationales et directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Michel Duclos, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France, en Syrie notamment, et vous êtes membre de l'Institut Montaigne. François Hesbourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'International Institute for Strategic Studies de Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève. Et vous êtes également conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Ma première question est pour vous, Thomas Gomard. Est-ce que l'adjectif populiste est le plus adéquat pour évoquer cette vague qui touche aussi bien l'Europe que l'Amérique ou l'Asie ?
Non, je pense pas, parce que je pense que ce terme recouvre en réalité des réalités très dissemblables. Ce qui, à mon avis, est frappant, c'est une forme de retour du nationalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle des solutions peuvent être trouvées davantage dans un cadre strictement national que de manière multilatérale et partagée. Et ça s'observe. Et puis ensuite, sous le terme populisme, en réalité, je pense que le populisme correspond beaucoup plus à une technique de conquête du pouvoir, de gens qui cherchent à conquérir le pouvoir, qui sont issus des élites traditionnelles, mais qui utilisent des moyens nouveaux, plus indirects peut-être, pour accéder au pouvoir. Et en ce sens, je pense qu'il faut essayer d'analyser les choses très différemment de ce qu'on observe en Europe, de ce qu'on observe en Amérique latine ou de ce qu'on observe en Turquie, en Russie. Je pense qu'on est dans des situations en réalité très dissemblables.
Michel Duclos, vous préférez parler de néo-autoritarisme ?
Oui, mais si vous voulez, c'est un peu comme la ronde de nuit d'un grand peintre hollandais. La lampe est posée à un endroit et donc éclaire les profils des participants à la scène sous un certain angle. Vous déplacez la lanterne, vous avez les mêmes personnages vus sous un autre angle. Alors effectivement, nous avons à faire face à un nouveau phénomène qu'on peut appeler populiste, nationaliste, autoritaire. Moi, j'utilise l'expression néo-autoritaire parce que ça montre bien que vous avez maintenant un nouveau style de gouvernement d'un certain type de dirigeants qui, les uns, viennent d'une tradition démocratique, les autres d'une tradition dictatoriale, avec plein de nuances entre les deux, mais tous se rejoignent dans un certain comportement.
François Hesbourg, chaque pays donc est différent, hein, on l'a compris, mais quels sont les dénominateurs communs de ces dirigeants populistes, entre guillemets, qui ont émergé ces dernières années?
D'abord, comme Thomas Gomard, je récuse le qualificatif de populiste appliqué à l'ensemble des pays que vous avez cités, d'autant plus que vous en oubliez d'autres où on peut vraiment parler de populisme. Lorsque les Britanniques rejette l'Union européenne dans le référendum sur le Brexit, ils ne sont ni autoritaires, ni, pour une bonne partie d'entre eux, nationalistes. Ils sont populistes au niveau de ce qui a été exprimé il y a quelques instants, au niveau du rejet des élites. Pour moi, le populisme, c'est le rejet des élites qui étaient en place avant, qu'elles aient été, d'ailleurs, soit dit en passant, démocrates ou pas démocrates. Monsieur Erdogan en Turquie n'est pas un modèle de démocratie, c'est absolument évident, mais il faut chercher quand même très fort pour trouver une vraie démocratie au sens classique du terme dans la Turquie et post-ottomane. Le dénominateur commun, c'est vraiment le rejet des élites. C'est même pas la méthode de conquête du pouvoir. Moi, j'ai participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Son arrivée sa chevauchée électorale était aussi extraordinaire, aussi époustouflante, aussi étrange et bizarre à certains égards que celle d'autres leaders qui sont arrivés en dehors du système. Je pense notamment à Donald Trump. Et Emmanuel Macron incarne le rejet des élites et politiques et qui étaient en place avant lui. Et autrement dit, je crois qu'il faut faire très attention justement de ne pas et mettre la même étiquette et sur l'ensemble et sur un ensemble de phénomènes qui sont en fait assez différents.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres dénominateurs communs à part le rejet des élites, comme la haine des médias, la peur de l'autre, ce qui et on voit par rapport à la question migratoire par exemple, Thomas Gomard.
Alors ça, ce sont des traits qui effectivement se retrouvent. Moi, je pense que le trait commun, c'est une forme aussi de ce qu'on appelle dans le jargon l'ère des hommes forts. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en scène de la virilité, de la capacité de décision par un seul, et décision qui entraînerait les changements escomptés, qui, à mon avis, fait partie des points qu'on peut observer. C'est-à-dire que les leaders, sans aller jusqu'au culte de la personnalité, certains s'en rapprochent de manière tout à fait construite. Ça, c'est un trait commun. Vous avez raison également, mais concernant les médias, je pense que ça participe pour moi de cette technique de prise du pouvoir, c'est-à-dire que c'est en contestant les médias dits traditionnels que ces personnes, au départ, s'illustrent, si vous voulez, se singularisent, pardon. Et donc, ça fait tout à fait partie de leur tactique de sans cesse remettre en cause les médias traditionnels en indiquant que ces médias traditionnels encourageraient un certain ordre des choses que eux se proposent de transformer. Et puis, effectivement, la peur de l'autre, ça, c'est quelque chose qui s'observe selon les périodes historiques, dès qu'il y a des situations de très fortes tensions économiques et sociales. Évidemment, il y a la recherche d'un bouc émissaire. Mais là aussi, le bouc émissaire est très différent selon les pays qu'on observe. Donc je répondrai à la fois oui et non sur la manière de rejeter l'autre.
Michel Duclos, quel a été le déclencheur, selon vous, de cette vague populiste, nationaliste, autoritaire? Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est la crise financière de 2008?
Alors, je dirais qu'il y a trois types de facteurs. Il y a évidemment les facteurs économiques, comme vous l'indiquez, la crise, les politiques néolibérales, la globalisation, qui ont fragilisé les classes moyennes et forment un peu le fond de l'air commun à tous ces nouveaux personnages. Un deuxième trait, c'est en matière de culture. Dans beaucoup de pays, une partie de la population perçoit comme une violence symbolique tout simplement l'évolution des mœurs ou un certain nombre de décisions qui sont prises pour s'adapter au monde moderne. Il y a des sociétés, alors on insiste souvent sur la dimension religieuse de ce phénomène, des sociétés pour lesquelles le mariage gay ou l'immigration font figure de déclencheurs d'une remontée de schémas très profondément enfouis et qui soudain réapparaissent sous l'étiquette, vous savez, de crispation identitaire, etc. Et puis il y a un troisième phénomène sur lequel je trouve on ne fait pas suffisamment attention et qui est celui pour ma part sur lequel j'essaie d'apporter une contribution, c'est l'aspect géopolitique des choses. Parce que au début des années 2000, il apparaissait évident que les idées libérales allaient l'emporter dans le monde. Et cela sans qu'il y ait besoin de faire de prosélytisme, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que, effectivement, l'administration Bush et peut-être d'autres gouvernements occidentaux ont commis des erreurs et ont braqué à des pans entiers du monde qui étaient prêts à se rallier à nos idées, mais ça n'a pas marché aussi à cause de M. Poutine ou du fait de M. Poutine. S'il n'y avait eu que les Chinois et les Cubains à résister à la vague libérale, ça n'aurait pas eu le même impact. Le fait que la Russie, qui d'ailleurs au début a donné des signaux aussi de fléchissement dans le sens des idées occidentales, s'est raidie et est apparue comme le symbole de la résistance à ces idées libérales, ensuite rejoint par d'autres courants, ça a un petit peu animé la réaction, disons, de l'ancien tiers-monde face à ce qu'il perçoit comme une remontée de l'impérialisme occidental. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut analyser. Effectivement, là je rejoins mes collègues, parce que c'est important de ne pas tout mélanger, bien sûr. On est face à des cas très différents, et si on veut une réponse appropriée, il faut bien analyser chacun de ces cas.
Thomas Gomard.
Oui, alors, je trouve que la référence à Vladimir Poutine est très intéressante parce qu'en réalité, ça montre qu'il était en quelque sorte avant-gardiste. Vladimir Poutine est élu en 2000, donc ça fait 18 ans. Et il a très vite construit un contre-discours, des antidotes idéologiques au discours de promotion de la démocratie promu par l'administration Bush. Et ça a été un discours qui, en réalité, a rencontré effectivement un écho bien au-delà du simple cas de la Russie. Je pense qu'il faut aussi voir le populisme comme un terrain qui a été préparé de longue date. C'est-à-dire que un des principaux partenaires de Vladimir Poutine en Europe, c'était Berlusconi. Et en ce sens, l'évolution politique de l'Italie pendant les années Berlusconi est une sorte de préparation à l'évolution de l'Italie que nous connaissons aujourd'hui. Donc je crois que sous ce terme populisme, il ne faut pas voir ça comme un phénomène qui commencerait en 2008, mais essayer de voir les racines qui sont beaucoup plus profondes. Dernier point, je pense qu'un des traits communs aussi, c'est le fait que nous sommes face à des pays qui ont complètement sous-investi ou détruit leur enseignement secondaire. Ça, c'est tout à fait frappant, c'est-à-dire que la privatisation de l'enseignement, à mon sens, poussée dans certains cas de manière extrême, aboutit aussi à une transformation tout simplement de la notion de citoyenneté dont on commence à mesurer les effets.
François Hesbourg.
Oui, et pour moi, les deux déclencheurs, je dis bien les déclencheurs, pas les causes profondes, mais les deux déclencheurs, c'est au plan international, c'est d'abord l'échec américain en Irak. C'est l'invasion et sans légitimité de l'Irak avec la grande cassure de l'Occident. Et là, pour le coup, le discours occidentalo-centré, la capacité occidentale à non seulement poser les normes, mais à générer le récit, et ça a été perdu. Et Poutine a pu exploiter ce terrain. Le deuxième déclencheur, et pour moi quand même le plus important, c'est ce que vous avez évoqué, madame. C'est la grande crise financière de 2008-2009. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les perturbations de la mondialisation, bien sûr, elles datent d'avant 2008-2009, mais les gens les acceptaient plus ou moins parce que l'économie dans l'ensemble tournait. Et les taux de croissance un petit peu partout étaient plutôt bons, sauf au Japon. Les grands mouvements migratoires n'avaient pas encore commencé. Et les élites pouvaient au moins prétendre avoir la légitimité de la performance. Et en 2008-2009, qu'est-ce qui apparaît? C'est que les élites sont apparues comme étant incompétentes. C'est là où le populisme a pu prendre son envol. Bien sûr, il y a toujours eu des mouvements proto-fascistes ou autoritaires ou populistes ici et là au fil des décennies. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu démarrer à partir de 2008-2009? C'est d'une part avec l'aggravation des conséquences de la mondialisation, avec des États qui apparaissent comme étant impuissants par rapport à ce qui se passe, impuissants devant la perte des emplois, impuissants devant des inégalités injustifiables, impuissants devant des mouvements de population par rapport auxquels les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de maîtrise, que personne ne sait vraiment comment gérer ça, même lorsque on n'est pas particulièrement xénophobe. Et autrement dit, nous payons aujourd'hui l'impéritie réelle, et en tout cas fortement perçue des élites, y compris bien sûr des mainstream médias, des médias généralistes traditionnels de l'époque, qui eux subissent de plein fouet, pas simplement bien sûr les reproches qui peuvent leur être faits par les politiciens populistes ou autoritaires, mais qui subissent bien entendu aussi le déferlement des réseaux sociaux, dont on s'aperçoit qu'ils sont des outils probablement plus efficaces entre les mains des néo-autoritaires, j'aime bien l'expression appliquée à un certain nombre de pays de Michel Duclos, et que des instruments de développement de l'autonomie des individus. Et tout cela débouche sur une perte du sens du collectif et l'individualisation, l'atomisation de la société, et donc la recherche de sens. Alors, ça peut être les évangéliques au Brésil, ça peut être Daesh.
Qui ont contribué donc à l'élection de Bolsonaro.
Ou à l'inverse, des mouvements tout à fait différents et beaucoup moins violents, pas forcément merveilleux, mais comme le Brexit chez les Britanniques, ou l'urbanisme chez Orban et en Hongrie.
Thomas Gomard, vous vouliez intervenir ?
Non, mais je partage ce qui a été dit. C'était juste un point sur cette idée de rejet des élites, en réalité. Je pense que c'est un point crucial parce que les leaders qui se présentent comme populistes sont des gens qui sont issus des élites, de ces élites, qui sont peut-être à la périphérie de ces élites, mais qui, que ce soit socialement ou économiquement, appartiennent à ce groupe dirigeant. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose en termes de réponse, si vous voulez, au populisme. Il y a un travail à faire d'explication de la généalogie ou du parcours de ces individus qui se présentent sous des atours nouveaux, alors qu'en réalité, on a des exemples en France, ce sont des gens qui sont...
Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen est une héritière. Bon, et elle tient un discours extrêmement populiste, alors même que elle pourrait être qualifiée d'héritière au sens bourdieusien du terme, si vous voulez. Et je pense que cet exemple-là se retrouve, en fait, dans la plupart des cas que nous avons évoqués.
Michel Duclos, est-ce qu'on est entré dans un cycle qui va durer, d'après vous ?
Je crains même qu'il va s'aggraver, parce que sur le plan sociologique, ce qu'on vient de décrire sous l'étiquette de populisme renvoie à un état de nos sociétés, et des sociétés où l'emploi est devenu de plus en plus précaire, et où les choses sont de plus en plus individualisées, d'où ce besoin d'appartenance à un groupe qui est renforcé par contre-coup. Et ça, les experts indiquent que, notamment ce qu'on appelle l'avenir du travail, va être de plus en plus parcellisé, fractionné, individualisé, et donc ces racines-là du populisme risque de s'amplifier. Maintenant, un autre élément de réponse, c'est que ça dépend aussi de la réaction que vont développer les libéraux, les démocraties libérales.
Alors justement,
libérales.
Comment peuvent-elles réagir pour ne pas se laisser étouffer ?
Je crois qu'il y a au moins deux pistes, il y en a certainement d'autres, ou trois pistes. Il y a une piste évidente, c'est qu'il faut développer des politiques qui répondent aux préoccupations des peuples, bien sûr. Ça, c'est la base élémentaire. Mais sur un plan plus politique étrangère ou gouvernance globale, puisque nous sommes au Forum de Paris pour la paix, je pense qu'il y a une carte géopolitique à jouer, et il y a le travail sur les sociétés civiles. La carte géopolitique, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne appréciation des différents profils, c'est que les néo-autoritaires ne sont pas voués nécessairement à se coaliser. Et notre rôle, le rôle des pays comme la France ou les Européens, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une jonction. Actuellement, par exemple, en Europe, on est menacé par une jonction entre le trumpisme et Orban, Salvini.
On va revenir tout à l'heure sur la société civile et ses initiatives ou son rôle. On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la menace que suscite la montée du populisme, entre guillemets, à travers le monde.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Nous sommes toujours à la Villette à Paris, dans le studio RFI installé dans la Grande Halle, où a été lancé tout à l'heure, à l'initiative de la France, le Forum sur la paix. La montée du populisme est-elle une menace pour le monde? Comment stopper cette contagion populiste nationaliste? On continue d'en débattre avec Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Michel Duclos, diplomate membre de l'Institut Montaigne, et François Hesbourg, président de l'International Institute for Strategic Studies de Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève. Sur le rôle de la société civile, François Hesbourg, vous vouliez intervenir tout à l'heure.
En fait, je voulais intervenir par rapport à votre question antérieure, qui est qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les modes d'approche. Mais tout d'abord, et lorsque le peuple souverain s'exprime, et qu'il s'exprime dans un sens qui n'est pas forcément celui que personnellement ou d'autres n'approuveraient pas forcément, mais il faut laisser au peuple souverain l'opportunité d'aller au bout de ses choix. Et les Britanniques ont choisi, par exemple, de sortir de l'Union européenne, et je trouve que c'est une idée totalement saugrenue, et je pense qu'elle est dramatique dans ses effets. Mais tout d'abord, il faut donner, entre guillemets, leur chance et à ceux qui rejettent les élites. Mais ce n'est acceptable comme formule que si, par ailleurs, les institutions sont préservées. Et les institutions, notamment constitutionnelles, je ne fais pas trop de soucis pour les Britanniques, de ce point de vue-là, il y a des pays dont l'encadrement constitutionnel est nettement plus faible. Mais pour des pays fortement structurés au plan des institutions, comme la France, comme le Royaume-Uni, et comme l'Allemagne, et très honnêtement, je crois que c'est les dégâts que consisterait à refuser d'entendre la mauvaise humeur du peuple serait pire que le bien qui en résulterait. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect offensif. Les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien que beaucoup de problèmes ne peuvent pas être traités dans un cadre national. Et vous regardez les accords de Paris, vous regardez le climat. Il est évident qu'on ne lutte pas contre le réchauffement climatique et à l'intérieur d'un seul pays. Et c'est aussi absurde que Staline qui voulait faire le communisme dans un seul pays. Et c'est vrai aussi pour d'autres problèmes qui soucient beaucoup les gens, et comme le commerce international ou les mouvements de population. Et vous ne pouvez pas les aborder dans un cadre purement national. Et là, il faut faire de la pédagogie. Il faut accepter aussi de rentrer dans une partie du jeu populiste. Lorsque les populistes mettent en exergue le problème des mouvements de population, et le font généralement par xénophobie, mais la plus grande partie de l'électorat, je crois, ne le fait pas par xénophobie. Il est tout simplement inquiet par l'apparente impuissance de l'État par rapport à ce type de phénomène. Eh bien, il faut que l'État, les responsables du moment, apportent des réponses et qui soient audibles et qui soient pratiques.
Thomas Gomard, vous avez souligné les uns et les autres l'impuissance des dirigeants occidentaux, du moins le sentiment qu'ont les gens de l'impuissance des dirigeants politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réformer par exemple le système international, revoir le fonctionnement de l'ONU, du Conseil de sécurité, avec le système du droit de veto par exemple, qui empêche de sortir d'un conflit comme en Syrie? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord sur l'impuissance prêtée aux dirigeants occidentaux, il y a un effet de contraste pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les autoritaires sont efficaces. Mais c'est quelque chose qui mériterait d'être exploré de manière beaucoup plus approfondie. Quels sont les régimes autoritaires qui sont réellement efficaces? Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine est efficace sur le plan intérieur, avec une croissance aujourd'hui qui snaque depuis 2010? C'est-à-dire qu'il y a aussi une
déconstruction... Les États-Unis, par exemple, Donald Trump peut se targuer de bons résultats économiques.
Absolument, ça c'est tout à fait à noter. Est-ce que c'est un phénomène de surchauffe? Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais effectivement, il peut tout à fait, ce qui explique d'ailleurs l'état au mid-term, présenter un bilan économique positif. Mais dans l'ensemble des pays qu'on qualifie de populistes, il y a quand même des situations très contrastées. C'est-à-dire qu'on a une Chine extrêmement dynamique sur le plan économique, mais le reste n'est pas forcément du tout efficace, comme on le dit. En revanche, ce sont effectivement des régimes qui ont pris en main le contrôle médiatique de manière extrêmement forte. Ça aussi, ils le partagent. Effectivement, quand vous n'avez pas de critique, quand vous passez en permanence dans les principaux médias, etc., c'est beaucoup plus facile d'afficher vos résultats. Avant de vous répondre sur l'ONU, je voudrais juste faire un détour parce qu'il a été indiqué par François Hesbourg, parce que le Vox Populi Vox Dei, c'est-à-dire la manière dont il faut respecter les élections, je pense que dans la situation européenne, il y a quelque chose. Il y a eu un tournant en 2005 avec le référendum, le rejet en fait du traité de l'Union européenne. Et voilà, et non pas Maastricht, mais on l'a ensuite réhabillé, si vous voulez, avec le traité de Lisbonne, et je pense que l'électorat s'est senti floué, et que le désamour pour le projet européen...
Mais à juste titre, non, puisque...
Absolument, à juste titre. Et donc, c'est de ce point de vue-là, il y a eu une volonté de la part des élites d'aller, de continuer à aller, à marcher, un peu à marche forcée, au fond, vers le projet européen, sans tenir compte du message politique qui avait été délivré par les urnes. Et l'aspect institutionnel est effectivement, à mon avis, tout à fait décisif, puisqu'on observe que les autoritaires... Une de leurs premières préoccupations, et je me réfère à nouveau au président Poutine, c'est de changer les institutions dès qu'ils le peuvent. 2012, lorsqu'il revient au pouvoir, il change le cadre institutionnel qui était en particulier, normalement de 2 mandats de 4 ans, pour le porter à 2 mandats de 6 ans, ce qui lui permet d'aller jusqu'en 2024. La question ensuite, c'est est-ce que les autoritaires rendent le pouvoir par la voie électorale? Et là, on va voir, mais le masque risque de tomber très vite. Mais très rapidement sur l'ONU, évidemment, on a un Conseil de sécurité qui aujourd'hui a été créé en 1945 dans un monde complètement différent et qui ne représente plus, je dirais, les rapports de force globaux tels qu'ils se présentent.
Vous êtes d'accord, Michel Duclos, le fonctionnement actuel du Conseil de sécurité est obsolète ?
À vrai dire, je suis d'accord, mais pas complètement. Je suis d'accord intellectuellement, si vous voulez, mais c'est une vue un peu théorique. Et jusqu'ici, premièrement... il n'y a pas de vraie contestation des décisions du Conseil de sécurité. Quand le Conseil de sécurité se met d'accord, ce qui n'est plus très fréquent maintenant, sa légitimité reste respectée. Par ailleurs, tout ne se ramène pas au Conseil de sécurité. Je fais partie d'un groupe qui va présenter son projet dans ce forum.
Un groupe international.
Et qui réunit précisément des Russes, des Chinois, des Européens, des Américains, mais aussi des Indiens.
Et vous allez discuter du Proche-Orient.
On va traiter du Proche-Orient. C'est-à-dire qu'on voit qu'au Proche-Orient, vous avez grosso modo un retour de la Russie, une Amérique qui dit toujours qu'elle va partir, mais qui est toujours là. Et vous avez des Chinois qui arrivent parce que leurs intérêts sont tels qu'ils ne pourront pas continuer à ignorer le problème. Et des Indiens qui sont un peu dans la même situation. Et si les Européens abandonnent complètement ce terrain, c'est sûr qu'ils ne pourront pas gérer un certain nombre de problèmes de sécurité intérieure dramatiques. Et donc, vous avez là place sur un immense sujet à une coopération de global powers, de pouvoirs globaux, qui doivent naturellement s'adresser aux puissances régionales et aux acteurs locaux, mais qui peuvent avoir entre eux une certaine coopération. Donc, je ne suis pas certain que la réforme, c'est affreux ce que je dis, puisque évidemment c'est contraire à beaucoup d'idées reçues, mais je ne suis pas certain que ce soit aussi central que cela. Par ailleurs, si vous me permettez, madame, Thomas l'a parfaitement exprimé, que Poutine, c'est un peu le patriarche de la confrérie des néo-autoritaires, c'est un peu lui qui a créé le modèle, c'est le parrain. Il a vu sa situation considérablement renforcée grâce à son intervention en Syrie. Donc il y a des gens à qui l'intervention militaire réussit, ça a été son cas. Mais avec Trump, il faut bien dire qu'on change de dimension, parce que le paramètre le plus structurant, pour utiliser un jargon un peu prétentieux sur la scène internationale, c'est quand même le retournement des États-Unis vis-à-vis des institutions multilatérales.
Alors justement, François Hesbourg, l'objectif de ce forum, c'est de voir comment on peut renforcer le multilatéralisme et comment on fait avec un homme comme Donald Trump qui honnit le multilatéralisme.
C'est bien que la France ait des grandes ambitions en lançant un forum de ce type, mais très honnêtement, le multilatéralisme ne va pas être renforcé dans les années qui viennent. Le multilatéralisme, dans le meilleur des cas, on pourra tenter de le défendre. Et ce qui explique cette situation malheureuse, c'est effectivement ni Poutine, ni les Chinois. C'est bien l'arrivée de M. Trump. Parce que si vous prenez la communauté internationale telle qu'elle existe aujourd'hui, la majorité des États représentés aux Nations Unies, ne sont pas des démocraties reconnaissables dans le moule européen ou nord-américain. On a affaire à un système international qui se reconnaît beaucoup plus volontiers dans la vision poutinienne du multilatéralisme que dans la nôtre. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Mais la chose qui a basculé, c'est bien l'arrivée de Trump. Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour lancer un grand chantier et de réforme du Conseil de sécurité. La dernière fois que ça a été vraiment tenté, c'était il y a une douzaine d'années. Pourquoi est-ce que ça a coincé ? Ben c'est à cause, entre autres, mais spécialement, des Chinois. Parce que les Chinois ne voulaient pas voir les Indiens arriver au Conseil de sécurité, ou les Japonais. Ce ne sont pas les États nantis d'Occident qui étaient en train de défendre leur fauteuil, c'était les Chinois qui étaient en train d'essayer d'empêcher les puissances émergentes, hors Chine, d'occuper le fauteuil. Donc, la représentativité du Conseil de sécurité, on peut oublier l'affaire. Quant au droit de veto, je sais qu'en France, on est en train de travailler sur une modification du droit de veto. Je n'ai pas encore compris en quoi ces modifications auraient changé quoi que ce soit au traitement de l'affaire syrienne, et où on a trouvé au Conseil de sécurité une union quasi parfaite entre la Chine et la Russie, et lorsqu'ils étaient membres tournants, les Brésiliens et les Indiens, qui à l'époque étaient des États parfaitement démocratiques. Et au Conseil de sécurité, il n'est pas absolument clair que les Français ou les Américains ou les Britanniques aient la majorité sur l'affaire syrienne. Et donc, on peut faire semblant de vouloir modérer les droits de veto. C'est probablement politiquement profitable pour la France. Ça nous donne un air un peu réformateur. On ne s'accroche pas aux oripeaux de la grandeur passée. On n'est pas néo-impérialiste. De ce point de vue-là, je comprends l'instrumentalité de l'affaire. Mais fondamentalement, aucune grande puissance ne va accepter de se voir privée de la possibilité d'utiliser son droit de veto. Et si on l'en empêche, ben à ce moment-là, plus rien ne se décidera au Conseil de sécurité, puisque chacun agira de son côté.
Alors, est-ce que la solution, le recours peut venir de la société civile, puisque ce forum sur la paix réunit beaucoup d'acteurs venus du monde entier, issus de la société civile. Il va y avoir des débats, des rencontres, des projets vont être présentés. 120 projets venus donc de 42 pays, 10 vont être accompagnés pendant un an par un comité d'experts. Thomas Gomard, est-ce que c'est une façon aussi pour les dirigeants de se défausser de leurs responsabilités en sollicitant les idées de la société civile?
Non, ce n'est pas une manière de se défausser. Je pense que c'est une manière de tenir compte de l'évolution des sociétés. C'est le fait qu'il y a une capacité illimitée de mise en contact désormais des gens, enfin des personnes, des individus entre eux, qu'il y a effectivement énormément d'initiatives qui émergent dans ces sociétés civiles. Donc je pense pas du tout qu'il faille opposer l'approche étatique et l'approche société civile, et je pense que en ce sens le forum au contraire cherche à combiner les approches, c'est-à-dire à montrer qu'il faut à la fois des politiques publiques, et la réponse au populisme, au nationalisme, c'est probablement aussi des politiques publiques, c'est-à-dire que on l'a dit plusieurs fois, mais les populations attendent d'être rassurées, d'être encadrées. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là, et puis il y a aussi des systèmes très ouverts, très fluides, dans lesquels les réseaux sociaux, les outils numériques sont maintenant se sont propagés à très grande vitesse, et qui font que le rapport au collectif est en train de changer, que les manières de travailler, les manières d'agir de concert, comme disait Hannah Arendt, sont en train de changer. Et je pense que ce forum, comme bien d'autres initiatives, essaie de refléter, si vous voulez, cette évolution. J'ajouterai un dernier point plus politique, c'est que on ne peut pas penser le multilatéralisme sur un pays comme la France, c'est-à-dire qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a un rôle tout à fait particulier au sein de l'Union européenne, à mon avis, sans avoir une réflexion de nature politique sur le type de relation que nous voulons avoir avec les trois grands, qui mettent en cause ce multilatéralisme, c'est-à-dire les États-Unis, notre principal allié, la Chine et la Russie. Là, je pense qu'il y a un espace politique qui est spécifique à la France et à l'Union européenne, où il faut à la fois continuer de manière bilatérale avec ces trois pays, mais être capable aussi de leur tenir un discours conjoint en disant « vous êtes en train de mettre à mal le multilatéralisme et nous entendons le défendre et le protéger ».
Michel Duclos, qu'est-ce que vous avez pensé de l'escarmouche entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui a proposé la création d'une armée européenne, Donald Trump qui a répondu en disant que c'était une proposition insultante. Comment vous analysez ce rapport de force entre la France et les États-Unis à l'aune de cet échange verbal?
Ah, c'est quand même l'écume des choses, si vous voulez. Le président de la République utilise cette expression parce qu'il s'adresse au grand public. Il sait très bien qu'il n'y aura pas d'armée européenne, mais c'est difficile d'expliquer qu'on veut une coopération militaire dans telle et telle condition. Quant à Trump, je pense qu'il cherchait n'importe quel prétexte pour avoir un tweet vengeur en arrivant à Paris. Il n'y avait pas de quoi certainement monter sur ses grands chevaux. Je suis personnellement convaincu que Face au phénomène que vous avez mis en avant, quelle que soit l'épithète qu'on lui accorde, populisme, nationalisme, autoritarisme, on ne peut pas se contenter de défendre le statu quo. Si on veut une réponse, il faut apporter une réponse, les gens savants disent transformationnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision d'un autre monde, d'un monde qui parle à l'imaginaire, qui parle aux gens. Et le multilatéralisme, c'est sûr que ça fait pas recette. On peut pas mettre ça sur un t-shirt. Il faut donc renouveler les cadres de la coopération internationale. Et l'un des moyens les plus sûrs, c'est d'y associer ce qu'on appelle la société civile. Et ça a été la recette de la COP21. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles ce forum a lieu, c'est parce que à Paris, on a eu sur le changement climatique l'impression, j'espère que c'était plus qu'une impression, d'une vraie avancée, d'un vrai progrès pour l'humanité. Et la méthode qui avait permis ce vrai progrès doit être appliquée à d'autres sujets, doit être utilisée pour renouveler la coopération internationale.
François, vous êtes d'accord, il faut s'inspirer.
C'est comme ça qu'on peut répondre à ceux qui veulent détruire les instruments multilatéraux.
L'accord de Paris, ça peut servir de modèle?
Pas vraiment, et ce n'est pas que je récuse ce qui est en train d'être fait ici, ça je vais y revenir dans un instant, au contraire.
Brièvement, parce qu'on est pris par le temps.
Absolument, et les accords de Paris ont pu avoir lieu parce qu'il y avait un accord de la communauté scientifique sur ce qui était en train de se passer. Et c'est sur cet accord qu'il a été possible de mobiliser la société civile. La société civile a joué ce rôle, mais elle l'a fait à partir d'un consensus qui avait été bâti au préalable en amont. Et cette situation n'est pas celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, malheureusement, en ce qui concerne l'avenir du système multilatéral. Mais la mobilisation et des idées, de la production d'idées par la société civile dans ce type de cadre, on verra au résultat dans quelques jours ce qu'il en sera sorti. Mais on sait très bien qu'au départ de tout changement, il faut un concept, des idées, des mots. Et c'est ça l'avantage qu'apporte la société civile, l'avantage par rapport aux États constitués qui ne sont pas dans la même situation de brainstorming permanent que celui qui agite fort heureusement la société civile. Donc j'aime bien la méthode qui est préconisée ici. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il faut partir du principe que c'est assez nouveau. Ce n'est pas une ressuscité de la COP21. Je pense
merci,
pas.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. François Hesbourg, Michel Duclos, Thomas Gomard. Merci d'avoir participé donc à ce débat dans le studio RFI installé au cœur du Forum sur la paix à la Villette à Paris. Un forum que vous pourrez continuer à suivre demain et mardi sur l'antenne et sur RFI.fr et les environnements numériques. Merci à Boris Vichit qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. Bonne soirée.